Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous retrouvons Mohamed Ben Youssef en position de conférencier devant la caméra. Il a fière allure, Mohamed Ben Youssef. Son grand boubou drapé sur ses longues jambes croisées, les coudes appuyés sur les manchettes du fauteuil, les mains manucurées se rejoignant, prête à s'envoler pour accentuer la brillante démonstration qui couve. Et c'est bien le moins, car il va nous faire revivre ce 4 juillet 1776, mémorable entre tous, et en particulier pour les pères fondateurs de la nation américaine. En attendant George Washington au restaurant, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison et Thomas Jefferson passent le temps comme ils peuvent. Alexander Hamilton et James Madison boivent, chantent et dansent, étroitement enlacés, tandis que Jefferson fait des exercices de tir à la Guillaume Tell avec son esclave préféré, exercice auquel il excelle fort heureusement. Tandis que Benjamin Franklin étalé au sol, avec sur lui seulement une créature féminine, semble à bout de force, et peut-être même en arrêt respiratoire, car la dame est affalée perpendiculairement au travers du corps du mâle heureux, dans une position quelque peu extra-kama-sutratique. Enfin, il me semble, mais il faudrait peut-être que je révise mes classiques. Survient Washington, bondissant, un parchemin à la main. Et chacun, Franklin y compris, s'enquiert des nouvelles. Eh bien, ça y est, l'indépendance est gagnée. Et c'est cette joyeuse assemblée qui va prendre les commandes du pays. Les cinq larrons, aussitôt, célèbrent l'événement par une polka en ligne endiablée, créant à l'occasion le style Crazy Horse. Benjamin Franklin, qui n'a pas eu le temps de passer son costume, ferme tel quel, pudiquement, la marche. Il faut bien dire qu'à cette époque, l'Amérique n'était pas grand-chose. Une étroite bande de terre à l'est du continent, rempli de va-nu-pieds originaires d'Europe et commandé par une poignée de riches propriétaires. Sans oublier les Noirs. En 1803, pour faire la nique aux Anglais, Napoléon vendit la Louisiane pour une bouchée de pain et permit à l'Amérique de doubler son territoire, aux pères fondateurs de s'en remettre plein les poches, et aux pauvres de prendre leur charrette et d'aller voir un peu plus loin. Et une série de vignettes sublimes d'expressivité et de dynamisme nous montre Napoléon aux prises avec les affres de la politique étrangère. Celle-là, c'est ma planche préférée. Avec le temps, les pères fondateurs accumulèrent des fortunes fantastiques et afin d'accroître leurs bénéfices, ils lorgnèrent vers l'ouest, vers le Texas et les immenses territoires mexicains. Déjà, au Texas, on organisait la résistance. Les Américains qui avaient pris la nationalité mexicaine saccageaient les élevages de sauterelles et mettaient du sucre dans le jus de citron pimenté, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Oui. Et on voit un pauvre Mexicain errant à la recherche d'un nuage de sauterelles pour préparer son dîner, courir dans la direction que lui indique un Américain naturalisé. Las, Monsanto avait déjà posé ses jalons, et c'est un essaim de guêpe que rencontra notre Mexicain, au grand fou rire de l'Américain sadique qui se moquait, comme de son premier revolver, de l'avenir de la planète. À Mexico, le général Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón avait pris le pouvoir et faisait régner la terreur. Il faisait claquer son fouet dans les airs pour couper en deux le cigare de ses ennemis. C'était le Napoléon de l'Ouest. Et si des fois ça marchait pas, là, son entourage avait du souci à se faire. Quand il apprit que le Terras menaçait de faire sécession, Santa Anna partit d'un grand rire qui se termina en raclage de gorge et il mollarda sur son premier lieutenant venu lui apporter la nouvelle. Et là, j'ai appris une expression nouvelle pour dire mollard. En espagnol, Santa Anna dit et ça marche. Il envoie ça à 10 pas. Pourtant, ptou, ça ne ressemble pas à mollard. Mystère de l'étymologie exotique, probablement. Mais essayez, avec un minimum de provisions, résultat garanti.
Si porque te quiero, quieres llorona, que yo la muerte reciba, que se haga tu voluntad, ay llorona, por suerte de Dios no viva, que se haga tu voluntad, ay llorona, por suerte de Dios no viva, ay.
Aunque
vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay.
L'armée de Santa Anna était formidable. 7000 hommes en uniforme, entraînés, équipés, organisés et disciplinés, qui tous, sans exception, avaient étranglé leur mère, minimum exigé pour être admis dans cette noble confrérie. La première bataille eut lieu près de San Antonio, dans une ancienne mission espagnole nommée El Alamo. L'armée sécessionniste qui défendait El Alamo n'était pas composée de soldats, mais rassemblait 200 hommes. Rien que du beau linge, banquiers, commerçants, juges, propriétaires terriens, chefs d'entreprise. Ces hommes, qui connaissaient mal la stratégie militaire, n'avaient qu'un seul rêve, la liberté. Mais leur chef, William Travis, savait que ça ne suffirait pas à faire face à l'armée mexicaine. Et tout le monde était déprimé. Et on voit les malheureux, avachis, que dis-je, effondrés, complètement insensibles aux efforts que déploie Travis pour les faire rire. Histoire de fesses, tyroliennes, guignols, rien n'y fait. Et Travis se met à boire. C'est alors qu'un bouseux de la campagne se rallia à leur cause, un homme simple qui se débrouillait, bon an, mal an, en vendant des peaux de bête, un homme qui allait devenir une légende pour toute l'Amérique, le trappeur Davy Crockett. Et les vignettes montrent Crockett déclencher l'hilarité partout sur son passage. Un sourire, un clin d'œil, un coup de coude, c'était son secret. Surtout quand, en plus, il ne voyait pas les pots de banane ni les seaux d'eau suspendus en haut des portes qu'il franchissait. Il rendit le moral et le dynamisme aux troupes de Travis, qui bravèrent Santa Anna avec courage et insouciance. Le siège dura plusieurs jours. Mais le 6 mars 1836, Santa Anna décida de mettre les bouchées doubles. 2000 hommes s'élancèrent. Et ce fut une boucherie. Il y eut quelques prisonniers, dont Davy Crockett. Il passa sa bonne humeur aux soldats mexicains qui, dans un fou rire communicatif, lui logèrent une balle dans la tête. Après El Alamo, les troupes de Santa Anna s'attaquèrent au Presidio de Goliad, haut lieu de culte et d'histoire, où elles massacrèrent les 400 hommes qui s'étaient pourtant constitués prisonniers. Il fallait maintenant gagner. Et Sam Houston, commandant en chef des armées rebelles, le savait. Il ne pouvait pas perdre, car l'ultime bataille devait avoir lieu près de la ville qui porterait son nom bientôt, Houston. Il ne pouvait pas perdre, sans quoi il aurait l'air d'un con pour des siècles à venir. Le 21 avril 1836, à 16h, tellement il était sûr de prendre une raclée, pensez donc à 21 avril. Sam Houston, il était tellement sûr de prendre une raclée qu'il mettait ses troupes en marche du bout des lèvres. « Et le tube !» il disait. « Essayez, en mettant le U à la place du A, vous verrez. C'est presque inaudible. » À 16h18, c'était plié. Les Mexicains, pourtant deux fois plus nombreux, étaient défaits. Et plus de 600 cadavres jonchaient le sol. Le lendemain, Santa Anna fut fait prisonnier. On le pendit par les pieds et on lui demanda de renoncer aux terres. Vous savez ce qu'il fit? Il partit d'un grand rire qui se termina en raclage de gorge. Il mollarda en l'air et rattrapa son crachat dans la bouche. C'est écrit, je vous assure. Ainsi, le Terrace obtint son indépendance. Cela n'avait tenu qu'à un fil, mais il ne porterait plus jamais son nom espagnol. On dirait désormais Texas. On proclama la République du Texas et Sam Houston devint son premier président. Durant 10 ans, ce fut l'âge d'or. Il faut bien comprendre que le Texas incarnait l'esprit de la frontière, goût pour l'aventure et pour les défis de toutes sortes, insolence, audace et confiance démesurée en soi-même. À preuve la planche suivante. Deux compères, l'un coiffé d'un sombrero, l'autre d'un Stetson, jouent innocemment au couteau sur une table. À ce jeu particulièrement raffiné qui consiste à planter le couteau successivement et le plus vite possible dans chacun des intervalles interdigitaux de la main étalée bien à plat sur la table. La vitesse n'est pas le seul critère d'excellence. La création de figures acrobatiques est aussi très cotée à ce jeu, enrichissant. Nos deux compères rivalisent donc. L'homme au sombrero en adapte les principes à un numéro de pédicure époustouflant. L'adversaire sort alors un foulard, se bande les yeux et se met à vie revoltée du schlass, lequel lui échappe. Et quand l'artiste ôte son bandeau, il retrouve son arme dans le poitrail de son partenaire. Où on peut penser que les différences de coiffure ne sont peut-être pas sans importance. Le prix à payer pour cette liberté absolue était le refus de la loi sous toutes ses formes. Il n'y avait pas d'armée régulière, les juges n'étaient jamais bien sévères, et aucun gouvernement n'imposait sa politique économique. Alors, le shérif qui embarqua l'homme au Stetson se flanqua malheureusement par terre en butant sur un Mexicain en pleine sieste. Comme il fallait un coupable dans cette affaire, on prit bien sûr le Mexicain providentiel que l'on pendit à la branche du premier arbre rencontré, le visage encore dissimulé sous son sombrero, pour ne pas traumatiser l'équipe shérif porteur de Stetson qui noya bientôt l'incident dans un flot de whisky. Le Texan possédait un sens de la propriété presque maladif. Cette terre qu'il avait gagnée avec son sang était sacrée. Il fallait être fou ou suicidaire pour s'aventurer dans un domaine privé. On tirait sur les intrus. Nombre de Mexicains, courant après leurs sauterelles au-delà des barrières, vérifièrent ce principe. Au Texas, le mari avait le droit d'abattre le scélérat qui avait couché avec sa femme. Non seulement il était félicité par les jurés, mais souvent ces derniers se réunissaient pour donner des coups de botte dans le cadavre encore tout chaud. Une femme pouvait pareillement supprimer un homme, à condition que son avocat puisse prouver que l'amour ou l'honneur était en jeu. Aucune autorité administrative ou politique n'intervenait dans les affaires de la famille. C'était la règle. Et là, il faut que je vous donne une idée de la façon dont Ototé représente la femme en colère. Armée d'un fusil de chasse, elle se lance à la poursuite de celui qui a trucidé son amour. Et il me vient à l'esprit une image qui vous reviendra automatiquement à vous aussi, celle de la cardinale dilettée une fois dans l'ouest. En 2 coups de crayon, c'est bien la Claudia qui bondit, griffe et flingue dehors, toute de haine, et de splendeur. Bien entendu, cette liberté ne s'appliquait pas aux Mexicains qui avaient voulu rester au Texas après l'indépendance. Ils avaient le choix entre le lynchage, la corde ou un bon coup de carabine. Les syndicalistes, les journalistes libéraux ou les professeurs d'université qui voulaient mettre les Texans devant leurs contradictions étaient traités de la même manière. Mais avant de s'en débarrasser, le barbier leur coupait les oreilles. On leur faisait fumer un bâton de dynamite. C'était la fête. Le revers de la médaille, c'était les bagarres, les duels, les meurtres et les insurrections, qui étaient monnaie courante. Nul ne s'en plaignait, et si un candidat courageux inscrivait l'interdiction des armes dans son programme électoral, il était sûr de ne pas être élu. Très démonstrative la page d'illustration qui montre un pauvre idéaliste défilant tout seul, avec sa pancarte affichant un revolver barré. Il est bien sûr poursuivi par un Texan pur et dur qui l'entoure affectueusement de projectiles issus de ses deux armes crachant le feu. Ils étaient comme ça, les Texans. Ils se sentaient invincibles et croyaient qu'un seul de leurs hommes valait 10 Mexicains, 5 Japonais, 4 Indiens et seulement 3 Allemands. Au bout de 10 ans d'existence, la République du Texas, criblée de dettes, fit banqueroute. Au Mexique, Santa Anna était revenue au pouvoir et avait juré de se venger. Anson Jones venait d'être élu président du Texas, mais se faisait du souci. Les créatures de ses rêves n'obéissaient plus au doigt et à l'œil. Tout foutait le camp. Un soir, James Knox Polk, le nouveau président des États-Unis, débarqua chez lui avec sa clique. « Anson, mon petit » murmura-t-il à l'oreille du Texan, tandis qu'un de ses acolytes, passé derrière Jones, jouait avec un couteau à tailler un petit bout de bois juste à côté de ses oreilles. « Anson, on n'a pas hésité à vous fournir des armes contre Santa Anna quand vous en aviez besoin. Et tu veux savoir pourquoi? Pour qu'un jour vous rentriez dans l'Union. Pour qu'un jour vous fassiez partie des États-Unis d'Amérique. Et ce jour est arrivé. » Anson claqua des doigts pour commander à son maître d'hôtel esclave du café pour tout le monde. La nounou pila les grains de café à la manière africaine et le maître d'hôtel les arrosa à sa façon. « Voyez l'illustration vous-même, je vais quand même pas tout vous dire. »« Si tu refuses, » poursuivait Knox, « on te coupe les vivres, plus d'aide économique, plus d'armes. » Et je peux te garantir que Santa Anna recevra une grosse enveloppe de dollars pour mener sa petite vengeance. C'est la destinée manifeste du peuple américain de se répandre sur le continent que la Providence lui a donné. C'est pas moi qui le dis, c'est John O'Sullivan. Et bientôt des millions de petits Américains l'apprendront au catéchisme. Sur quoi le maître d'hôtel apporta le café spécial et son patron, qui avait besoin de se passer les nerfs sur quelqu'un, lui fit un croche-patte discret qui propulsa le plateau de café sur les invités, justifiant ainsi le coup de pied spectaculaire qu'il administra à l'esclave, restaurant aux yeux de l'assemblée son autorité naturelle.
Voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene.
Soy pescador, vivo en el mar.
Grande agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Dicen que el mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
Le Texas n'avait pas le choix. On négocia fermement l'entrée dans l'Union. On obtint plus que n'importe quel autre État n'avait obtenu auparavant. Les terres publiques appartiendraient au Texas et non au gouvernement fédéral. Et l'esclavage serait autorisé sans restriction. Le 29 décembre 1845 à minuit, le Texas, à contre-cœur, votait son entrée dans l'Union en se promettant qu'un jour, ce serait lui qui annexerait les États-Unis. Pour les États-Unis, l'annexion du Texas n'était pas une fin en soi. C'était la clé d'un processus qui allait amener les colons américains à contrôler tout le Grand Ouest et à déferler jusqu'au Pacifique pour faire du surf. Mais pour l'heure, le Grand Ouest était mexicain. James Knox Polk en avait offert 40 millions de dollars. Mais il est facile de deviner comment Santa Anna avait réagi après qu'un ambassadeur lui eut fait la proposition. Et là, les vignettes sont très éloquentes. L'ambassadeur américain, en haut de forme, présente cérémonieusement la lettre de créance. Et Santa Anna, expert en la matière, on l'a vu, Santa Anna, lui mollarde au nez. Dignement, l'ambassadeur s'essuie. Et avant qu'il ne reprenne ses esprits, Santa Anna le gratifie de rechef de son offrande visqueuse, sous les applaudissements de sa garde esbaudie. Il y avait un différend à propos de la frontière entre Texas et Mexique. Historiquement, les Mexicains la situaient sur la Nueces River, tandis que les Texans la voulaient sur le Rio Grande. Ça vous dit quelque chose, je pense. Sur le Rio Grande, donc, à 200 kilomètres de là. En juin 1845, les Américains envoyèrent le général Zachary Taylor sur la Nueces River. En février 1846, quand eut lieu la cérémonie de passation de pouvoir entre la République texane et le gouvernement fédéral, Taylor mit le cap sur le Rio Grande, ce que les Mexicains considérèrent comme une violation de territoire. Et on voit la superbe armée américaine à cheval défier les gardes-frontières mexicains. Ils n'ont pas l'allure de notre police montée toulousaine, mais tout de même, c'est impressionnant. J'ai bien dit notre police montée toulousaine, car nous en avons une. Oui, oui, mes amis. Et quelle classe! Au Cap, ce 24 décembre, les enfants étaient ravis de les voir en vrai. Ils ne croient plus au Père Noël, mais à la police montée, si. C'est jeune et ça sait pas. Pourvu qu'on ne voit pas ces bestiaux en tout genre dans les prochaines manifs. Le 25 avril 1846, James Knox Polk arriva en retard au Conseil des ministres. Il venait de recevoir cette missive du général Taylor. Les hostilités ont commencé. Les Mexicains avaient fait 16 morts dans une patrouille américaine. Ce fut une explosion de joie avec flonflon, girls et cotillons. S'ensuivit un mouvement de patriotisme sans précédent. Les hommes politiques de tous bords, les intellectuels, les journaux, approuvaient sans réserve. Et les gars énervés contre les Mexicains descendaient dans la rue en disant à leurs femmes de ne pas bouger, qu'ils revenaient dans 5 minutes, qu'ils allaient chercher des cigarettes. En décrochant sans bruit avant de sortir, leurs fusils toujours disponibles. Et là, j'ai un problème personnel, majeur, avec cette BD. Grégory Jarry fait une citation de Walt Whitman qui éclaira ma jeunesse. Et là, je m'étouffe. Voilà de quoi il s'agit, à vous de juger, comme disait quelqu'un. Oui, le Mexique doit être sévèrement châtié, que nos armes soient désormais brandies pour prouver au monde que l'Amérique sait comment frapper. Walt Whitman, le poète anti-esclavagiste, avant-gardiste, féministe et homophile. Walt Whitman, qui me fit 68 ardes, se serait ainsi vautré dans ce militarisme abject qui fit massacrer tant de Mexicains, sur un complot grossier dont même les chefs militaires reconnaissaient le montage pervers. Walt Whitman aurait entraîné toute une jeunesse dans ce crime. Pas possible. Je me jette dans l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, dont on vous a déjà parlé quelquefois, et je retrouve la citation sous le commentaire écœuré de Zinn. Nous retournerons à Howard Zinn un de ces jours. On boit un coup et on retourne à cette guerre. Qu'on appela alors, nous rapporte Zinn, la guerre de Polk, son caprice, son passe-temps.
Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo
Le Congrès vota donc des budgets militaires, colossaux, et lança la formidable machine de guerre américaine. Toute contestation endormie, le pays suivit James Knox Polk comme un seul homme. Et le rétroprojecteur de Mohammed nous montre des bombardiers américains lâchant leur cargaison sur des femmes en burqa et des hommes barbus. Simple anticipation. Ou un peu de désordre dans le panier de diapos. Et Grégory conclut, Bien sûr, il y eut des viols et des morts en grand nombre. Bien sûr, ce fut une guerre menée par une élite américaine contre une élite mexicaine. Et bien sûr, ces élites se servirent des populations pour gagner les combats. Mais ce fut une guerre qui valait drôlement le coup. Très drôlement, on vous l'assure. Car les Américains la remportèrent. En février 1848, le traité de Guadalupe Hidalgo attribuait la moitié du Mexique aux États-Unis. Et le Texas s'étendit jusqu'au Rio Grande. La guerre avait dopé l'économie, agrandi le territoire, unifié la nation et fait la fortune des grands hommes. Le général Zachary Taylor, porté en triomphe, fut élu président en 1849. Quand James Knox Polk quitta la Maison-Blanche, la carte des États-Unis d'Amérique était définitivement tracée.
Ay, qué bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana. Quisiera llorar.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besar. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y con pretensiones le chupa de usted.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar.
Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito.
Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, que ando en pretensiones de chuparme usted.
Bon, ça suffit pour aujourd'hui. J'aurai encore des réserves d'émotions à consommer pour le 1er janvier. On ira jusqu'à la rencontre avec les extraterrestres. À bientôt pour affronter l'année à venir.